en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Dans le cadre de réflexion de son thème annuel consacré à la justice, l'Académie des sciences morales recevait le lundi 9 octobre 2006 Vincent Lamanda, premier président de la Cour d'appel de Versailles, sur le sujet du Conseil supérieur de la magistrature. Retrouvons-le sans tarder en salle des séances.
Quel honneur, certes, mais aussi quel étonnement d'être devant vous dans cette si prestigieuse assemblée. Je les dois à l'amicale sollicitude de vous-même, Monsieur le Président, Monsieur le bâtonnier André Damien. Ma gratitude est d'autant plus grande et profonde pour votre flatteuse invitation que reste incertaine à mes yeux la consistance du concours que je peux apporter à votre magnifique compagnie par un modeste propos sur le Conseil supérieur de la magistrature. À un moment où l'image du juge est particulièrement troublée, un magistrat peut-il avoir un discours crédible sur l'institution originale chargée d'assister le président de la République dans sa mission constitutionnelle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire? Mais je me dis que si l'image du juge est tributaire des habitudes et des a priori, elle dépend avant tout de la sensibilité de l'œil qui la voit. Et en choisissant d'accueillir aujourd'hui un juge, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, vous avez assez montré le regard réconfortant que vous portez sur ses fonctions. Sachez toute la valeur que j'attache au privilège de m'exprimer aujourd'hui devant vous. L'appellation « Conseil supérieur de la magistrature » apparaît pour la première fois en France avec la loi du 31 août 1883 relative à l'organisation judiciaire qui dénomme ainsi la Cour de cassation, statuant en matière de discipline des magistrats d'autres chambres réunies. Mais ce n'est qu'en 1946 que la Constitution de la IVe République crée, sous ce même vocable, un organe constitutionnel autonome chargé de garantir l'indépendance des juges. Dans cette acception plus large, le Conseil supérieur de la magistrature aura donc 60 ans dans quelques jours. En effet, le titre 9 de la Constitution du 27 octobre 1946 a institué un Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République, avec le garde des Sceaux comme vice-président. Il était en outre composé de 6 membres, élus par l'Assemblée nationale, de 4 magistrats élus par leur pair, et de 2 personnes désignées au sein des professions judiciaires par le président de la République. Les pouvoirs de ce Conseil étaient étendus. Il proposait la nomination de tous les magistrats du siège. Il en assurait la discipline. Il était enfin chargé de l'administration des juridictions. Il n'a toutefois jamais exercé cette dernière compétence, n'en ayant pas eu les moyens. En ma qualité de secrétaire du Conseil, de janvier à août 1981, j'ai pu compulser les archives de celui-ci. Il suffisait de lire quelques-uns des nombreux courriers dénonçant la politisation des nominations, certaines professions de foi scandaleusement démagogiques, ainsi que les tracts extravagants de magistrats sollicitant les suffrages de leurs collègues, pour se convaincre des défauts du système mis en place en 1946 et aussitôt perverti par la brigue, l'opportunisme et l'écoterie. Une réforme s'imposait, chacun en était conscient. La Constitution du 4 octobre 1958 l'introduisit. La composition du Conseil était modifiée. C'était aux yeux de beaucoup l'essentiel. Les pouvoirs de l'institution étaient parallèlement limités. Le précédent Conseil s'étant montré incapable d'exercer les siens dans leur plénitude. Autour du président de la République et du garde des Sceaux, demeurés président et vice-président du Conseil supérieur, 9 membres étaient tous désignés par le président de la République, soit directement, 2 personnalités qualifiées, soit sur proposition du bureau de la Cour de cassation, 6 magistrats, ou de l'Assemblée générale du Conseil d'État, 1 conseiller d'État. Le Conseil ne proposait plus au président de la République que la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation et des premiers présidents de Cour d'appel. Il donnait un avis simple sur la nomination des autres juges proposés par le garde des Sceaux. Confirmé comme conseil de discipline, il statuait sous la présidence du premier président de la Cour de cassation. Il pouvait enfin être consulté par le chef de l'État en matière de grâce, son avis étant nécessairement recueilli en cas de peine de mort. Mais les modifications intervenues quant à la composition du Conseil et à ses attributions n'étaient pas de nature à lui permettre de s'imposer avec une autorité et une crédibilité suffisantes tant à l'intérieur du corps judiciaire que dans l'opinion publique. Aussi, la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994 remanièrent-elles profondément le CSM. En revenant au principe de l'élection pour les magistrats membres du Conseil, mais selon des modalités nouvelles, en créant 2 formations distinctes, compétentes l'une à l'égard des juges, l'autre des procureurs, en faisant désigner par les plus hautes institutions et autorités de l'État des membres communs à ces 2 formations et n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, en étendant les pouvoirs de proposition de la formation du siège à la nomination des présidents de tribunal de grande instance, en élargissant le rôle consultatif du Conseil, avec désormais des avis contraignants, dits conformes ou non conformes pour les magistrats du siège, interdisant aux gardes des Sceaux de passer outre, et des avis simples, dits favorables ou défavorables pour les magistrats du parquet, à l'exception des procureurs généraux nommés depuis 1986 en Conseil des ministres. La loi organique du 25 juin 2001 a revu le mode d'élection des magistrats, autres que les membres de la Cour de cassation et les chefs de juridiction, en adoptant le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, ce qui a permis aux 2 principaux syndicats de magistrats d'être représentés au sein du Conseil. Elle a de plus, notamment, donné la possibilité aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près celle-ci de saisir directement le Conseil supérieur statuant en formation disciplinaire d'une poursuite contre un magistrat de leur ressort, prérogative jusque-là réservée aux seuls gardes des Sceaux. Après ce bref rappel historique, je vous propose d'examiner successivement la composition et l'organisation du Conseil, ses attributions et ses moyens. Dans la recherche des solutions institutionnelles destinées à garantir l'indépendance de la justice, la composition du Conseil supérieur, dans tous les pays où un tel organisme existe, est un enjeu central, particulièrement à 2 points de vue. Celui de la place faite respectivement aux magistrats et aux non-magistrats au sein du Conseil et celui de l'implication du pouvoir exécutif dans sa composition. Sont ainsi posées d'emblée les questions de la mixité des membres du Conseil et celles de la présidence de celui-ci. La mixité s'entend ici de la présence de magistrats et de non-magistrats. Elle est de règle dans tous les conseils existants en Europe et son principe n'est pas discuté en France. Ce consensus reflète la conviction que l'indépendance de l'autorité judiciaire ne requiert pas l'autogouvernement de la magistrature, que la justice rendue au nom du peuple français n'appartient pas au seul magistrat et que la composition du Conseil doit en témoigner. Enfin, que la participation de personnalités extérieures au corps judiciaire contribue à renforcer l'autorité et le crédit du Conseil. Mais il existe chez nous un débat récurrent sur le dosage de cette mixité et plus précisément sur la question de savoir si la majorité du Conseil doit appartenir aux magistrats ou aux non-magistrats. Ce débat est d'autant moins serein que les positions divergent déjà sur le constat de la situation actuelle. Pour les uns, la parité existe entre magistrats et non-magistrats au sein du Conseil. Pour d'autres, les magistrats n'y sont que légèrement majoritaires. Pour d'autres encore, les magistrats constituent l'écrasante majorité du Conseil. Car on peut, de plus ou moins bonne foi, soutenir chacune de ces affirmations. S'il est institué un seul Conseil supérieur de la magistrature, celui-ci comporte désormais, comme je viens de le rappeler, deux formations distinctes. L'une compétente à l'égard des juges, l'autre des procureurs. Considérons par exemple la première. Lorsqu'elle se réunit au palais de l'Élysée pour formuler les propositions de nomination dont elle a l'initiative, elle est présidée effectivement par le président de la République. Prend place en face de lui le garde des Sceaux, membre de droit et vice-président du Conseil. Entre eux se répartissent autour de la table, quatre personnalités extérieures à la magistrature, désignées respectivement par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée générale du Conseil d'État. Et six magistrats élus par leur pair, le premier par l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation, le deuxième par le Collège des premiers présidents de Cour d'appel, le troisième par le Collège des présidents de tribunal de grande instance, les trois restants par le Collège des autres magistrats du siège des cours et tribunaux, l'un d'entre eux étant obligatoirement un magistrat du parquet, pour manifester l'unité du corps judiciaire. Le chef de l'État, le ministre de la Justice et les quatre personnalités extérieures à la magistrature forment un total de six non-magistrats. Leur nombre équivaut exactement à celui des magistrats élus, même si l'un d'entre eux appartient au parquet pour bien marquer, comme je l'ai dit, l'unité du corps. Il est donc loisible de soutenir, avec pour le moins l'apparence de la vraisemblance, que la parité caractérise la composition actuelle du Conseil supérieur français. Il est à noter que la Belgique est le seul autre État d'Europe à avoir prévu pour la nomination des magistrats du siège et du parquet la parité entre magistrats et non-magistrats au sein de son Conseil supérieur de la justice. Dans tous les autres pays européens, les magistrats sont majoritaires. On peut s'étonner de la présence au sein du CSM français du pouvoir exécutif, représenté par le président de la République et le garde des Sceaux en personne. Cette situation exceptionnelle dans l'Union européenne, peut légitimement surprendre au regard des exigences objectives du principe de la séparation des pouvoirs. Elle traduit sans doute, en les associant, deux spécificités constitutionnelles françaises. D'une part, la conception du rôle du chef de l'État comme clé de voûte des institutions, qui assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. D'autre part, la réticence à reconnaître formellement l'existence d'un pouvoir judiciaire et par suite à rendre complètement autonome l'instance constitutionnelle chargé de garantir son indépendance. Il est de même quelque peu insolite que le garde des Sceaux, qui soumet aux avis du Conseil ses propositions de nomination pour la majorité des magistrats, préside personnellement les réunions au cours duquel sont formulés ces avis. Quoi qu'il en soit, dans son état actuel, consacré par l'usage, le fonctionnement normal du dispositif laisse aux membres du Conseil, qu'ils soient nommés ou élus, une complète indépendance dans les délibérations par lesquelles ils exercent leurs attributions en matière de nomination. En effet, les propositions et les avis sont préalablement délibérés hors la présence du chef de l'État et du ministre de la Justice par la formation du Conseil compétente, réunie chaque semaine sous la présidence d'un de ses membres qui l'ont élu à cette fin. Il résulte de cette pratique constante que les séances du Conseil auxquelles participent le président de la République et le garde des Sceaux ne donnent lieu à aucun vote. Certains estiment en conséquence qu'il convient de retrancher du décompte des membres du Conseil le chef de l'État et le ministre de la Justice. Pour eux, chaque formation du Conseil n'est composée que de 10 membres, 4 personnalités extérieures à la magistrature et 6 magistrats. Ils considèrent en général que cette composition est bien équilibrée, avec 3 personnalités qualifiées désignées par les plus hauts responsables politiques, 3 magistrats appartenant à ce qu'il est convenu d'appeler la hiérarchie judiciaire, 3 adhérents des principaux syndicats de magistrats et un membre du Conseil d'État qui apporte notamment sa connaissance particulière du contentieux disciplinaire et du droit des statuts. Une telle mixité, font-ils valoir, est conforme à ce que l'on rencontre partout en Europe, aucun pays, pour l'instant, n'y prévoyant une présence majoritaire de non-magistrats. Au Portugal, l'application stricte des textes le permettrait, mais le président de la République, qui dispose du pouvoir de nommer 2 membres, a pris l'habitude de désigner exclusivement 2 magistrats. Occulter totalement la présence du président de la République et du garde des Sceaux, membres de droit du Conseil, méconnaîtrait cependant leurs prérogatives, qui ne sont pas négligeables. L'ordre du jour des séances du Conseil, au cours desquelles sont formulées officiellement propositions et avis, est toujours arrêté par le président de la République. Il le signe après que les membres du Conseil ont fait connaître lors d'une réunion préparatoire à son cabinet et à celui du ministre de la Justice les propositions et les avis qu'ils ont décidé d'exprimer. Et il arrive que pour éviter un avis non conforme, le garde des Sceaux procède à un retrait de sa proposition de nomination qui, de ce fait, ne figurera plus sur l'ordre du jour définitif signé par le chef de l'État. Les 2 formations distinctes de notre Conseil supérieur de la magistrature s'assemblent environ une fois par mois en réunion plénière sous la présidence d'un de ses membres, élu lui aussi à cette fin pour un an. La réunion plénière a pour objet l'examen des questions d'intérêt commun. Celles-ci concernent notamment l'élaboration et l'adoption des avis donnés, spontanément ou à sa demande au président de la République sur des sujets relatifs à l'indépendance de l'autorité judiciaire et ne ressortissant pas des mesures individuelles. L'harmonisation des méthodes de travail des 2 formations spécialisées et des critères d'appréciation qu'elles retiennent. L'organisation et le fonctionnement du Conseil. La préparation et le suivi des missions d'information qu'il doit diligenter auprès des cours et tribunaux de l'École nationale de la magistrature et de la Cour de cassation, la réception de personnalités et de délégations nationales ou étrangères, enfin la préparation et l'adoption de son rapport annuel d'activité et de toute autre publication. On peut alors se sentir autorisé à soutenir que les magistrats constituent l'écrasante majorité du Conseil, puisqu'ils sont 12, 5 juges et un procureur pour la formation du siège, 5 procureurs et un juge pour la formation du parquet, les personnalités extérieures n'étant-elles que 4, puisque communes aux 2 formations. 12 sur 16, ou plutôt sur 18, si l'on ajoute le président de la République et le garde des Sceaux. C'est beaucoup. Ce mode de calcul, le plus couramment pratiqué, n'est pas tout à fait faux. Même si la réunion plénière n'est prévue par aucun texte, et même si chaque formation spécialisée, et particulièrement celle du siège, détient seule de réels pouvoirs qu'elle ne peut partager avec l'autre. En raison de la présence en leur sein de membres communs, les deux formations ne sauraient d'ailleurs se réunir ensemble. Elles doivent siéger séparément, à des moments différents, pour être valablement composées. L'ambiguïté qui naît de cette situation et son exploitation par d'aucuns, jointe au fait que l'organisation en vigueur du Conseil peut donner le sentiment que les magistrats du parquet bénéficient d'une représentation supérieure à leur importance numérique au sein du corps judiciaire, ont conduit la Conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel à préconiser qu'en cas de réforme du CSM, soit créé à la place de deux formations siégeant parallèlement dans un conseil unique, deux conseils distincts, aux pouvoirs différents, l'un pour les juges, l'autre pour les procureurs. Un tel dispositif existe déjà au Portugal. Maintenant, voyons les attributions du Conseil. L'attribution principale concerne la nomination des magistrats. En matière de nomination, la formation du siège dispose de deux types de pouvoirs distincts. Elle a un pouvoir de proposition pour la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation, du conseiller référendaire au premier président, des premiers présidents de cour d'appel et des présidents de tribunal de grande instance. Pour ces quelques 400 postes sur 7800 dans la magistrature, elle dispose donc de l'initiative, recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à l'audition de certains d'entre eux et arrête les propositions qu'elle soumet dans les conditions que j'ai décrites au président de la République sur le rapport d'un de ses membres lors d'une séance solennelle du Conseil tenue au Palais de l'Élysée. Pour toutes les autres nominations de magistrats du siège, la formation dispose d'un pouvoir d'avis conforme. Le garde des Sceaux, qui conserve l'initiative, propose les nominations. La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n'ont pas été retenus par la chancellerie, et notamment des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions, puis exprime, lors d'une séance tenue en général au siège du Conseil, au Palais de l'Alma, un avis qui lie l'autorité de nomination. La formation du parquet dispose quant à elle d'un pouvoir plus limité, pouvoir d'avis simple pour toutes les nominations au poste du parquet qui sont proposées par le garde des Sceaux, à l'exception, comme je le disais, des procureurs généraux nommés en Conseil des ministres. Elle étudie les dossiers des magistrats proposés, ceux des candidats qui n'ont pas été retenus par la chancellerie, et notamment des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions, puis exprime, lors d'une séance tenue soit au siège du Conseil à l'Alma, soit, c'est arrivé une seule fois, au Palais de l'Élysée, un avis qui ne lie pas l'autorité de nomination, qui peut passer outre, même si ces passés outre sont très peu nombreux, depuis que, en 2002, le garde des Sceaux a décidé de ne pas suivre systématiquement les avis de la formation du parquet. L'autre attribution essentielle du Conseil supérieur de la magistrature est la discipline des magistrats. En matière de discipline, les deux formations du Conseil siègent là encore séparément, mais à la Cour de cassation. Le premier président de la Cour de cassation préside alors la formation du siège, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège. Le procureur général près la Cour de cassation préside la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. En cas d'épêchement, ils peuvent l'un et l'autre se faire suppléer par le magistrat du siège ou du parquet de la Cour de cassation, membre de la formation compétente du Conseil. Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il peut aussi être saisi par les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunaux supérieurs d'appel. Le garde des Sceaux saisit le procureur général près la Cour de cassation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet. Le procureur général près la Cour de cassation peut de la même manière être saisi par les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel. Pour ce qui concerne les magistrats du siège, les sanctions disciplinaires sont prises après enquête et rapport d'un des membres, par décision motivée, de nature juridictionnelle en quelque sorte, de la formation du siège du Conseil, cette décision s'imposant à l'autorité de nomination. Pour ce qui concerne les magistrats du parquet, c'est le garde des Sceaux qui décide des sanctions, mais après avis, rendu dans les mêmes conditions de la formation du parquet. Le siège du ministère public est tenu par le directeur des services judiciaires du ministère de la Justice ou son représentant. La loi du 25 juin 2001 a introduit la publicité de l'audience. Pendant les 4 ans du mandat du Conseil auquel j'ai participé, plus de 20 magistrats ont été sanctionnés au siège ou au parquet confondus, et 5 d'entre eux ont été soit révoqués, soit mis à la retraite d'office. Afin de rendre compte de son activité disciplinaire, pour remplir aussi sa mission pédagogique, le Conseil supérieur de la magistrature, avec le concours du service de documentation et d'études de la Cour de cassation, a élaboré et publié l'an dernier, au début de l'année plutôt, le recueil de ses décisions disciplinaires de 1959 à 2005. Les moyens du Conseil maintenant. Ces moyens sont limités par rapport à ce que l'on trouve dans la plupart des conseils supérieurs européens. L'organisation du Conseil supérieur de la magistrature peut être en France qualifiée d'embryonnaire en comparaison à celle de ses homologues italiens, espagnols ou belges, par exemple, qui ne comprennent pas de fait, il ne comprend pas de fait de membres permanents et apparaît comme le moins bien doté en personnel parmi tous les systèmes étudiés ainsi qu'en moyens financiers. Dépourvu de tout service de documentation, et a fortiori, comme on l'a vu dans d'autres conseils, d'un département des relations internationales, ce qui est le cas en Italie ou en Espagne, ces moyens sont mis à disposition par le ministère de la Justice. Il n'a aucun pouvoir dans le recrutement des personnels qui lui sont affectés. Le manque d'autonomie et la faiblesse des moyens alloués au Conseil français, par ailleurs dépourvu de tout lien institutionnel avec l'Inspection générale des services judiciaires et l'École nationale de la magistrature, ce qui n'existe pas là encore dans la plupart des autres systèmes européens, sont les premiers obstacles au développement de ces missions. S'agissant du secrétariat du Conseil, celui-ci est actuellement confié à un secrétaire administratif assisté d'un secrétaire administratif adjoint, l'un et l'autre ayant la qualité de magistrat. La situation de ce secrétariat est marquée d'une certaine ambiguïté, là encore, qui découle de celle de l'institution, puisque tout en étant des collaborateurs des membres du Conseil, les deux secrétaires administratifs dépendent directement de la présidence de la République et sont nommés sans consultation préalable des membres du Conseil sur leur choix. Alors, au terme de cette rapide étude, mais je sais qu'il fallait rester dans les limites d'une épure horaire, et donc je pourrais répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez poser, je voudrais dire que le conseil auquel j'ai appartenu a mené une étude sur les conseils de justice en Europe qui nous a permis de faire de très intéressantes comparaisons. Il n'existe pas, démontre cette étude, une norme européenne vers laquelle il faudrait faire converger les conseils. Le droit comparé permet toutefois de dégager, par-delà les différences d'organisation et de compétences, une conception commune de la situation des conseils dans l'équilibre des pouvoirs. Si, évidemment, les conseils ne relèvent ni du pouvoir exécutif, ni du pouvoir législatif, ils ne sont pas davantage l'émanation ou l'expression de l'autorité judiciaire. Ils sont, avec des modalités différentes, des autorités constitutionnelles ne dépendant à ce titre d'aucun autre pouvoir que le pouvoir constituant est situé, selon l'expression du professeur Delperré, aux confins des autres pouvoirs, afin d'assurer leur équilibre au sein de l'État de droit. Par cette situation constitutionnelle originale, les conseils supérieurs sont en devoir de garantir l'indépendance de la fonction de juger et, selon les pays, de la fonction de poursuivre, à l'égard des atteintes qui pourraient être conduites à lui faire supporter les autorités politiques, économiques, sociales, médiatiques et même judiciaires. Dans le modèle européen de société démocratique, en effet, l'indépendance de la justice n'est pas au service des magistrats, mais des citoyens qui sont autant de justiciables potentiels. Leur liberté politique impose qu'ils soient assurés d'être jugés, et le cas échéant poursuivis, par des magistrats impartiaux, prenant leurs décisions à l'abri de toute pression. Et cette assurance leur est donnée par les conseils supérieurs de la magistrature, qui, en veillant à l'indépendance de la décision judiciaire, quel que soit le système examiné, et quel que soit le statut local de la magistrature, conforte la confiance des citoyens dans leur justice et dans l'état de droit.
Vous venez d'entendre Vincent Lamanda, président de la Cour d'appel de Versailles, sur le sujet du Conseil supérieur de la magistrature, lors d'une communication faite en séance publique à l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 9 octobre 2006.